Excellent réveil à tous, le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'enquête sur le meurtre terroriste de Samuel Paty progresse avec le déferrement cette nuit de 7 personnes devant un juge antiterroriste. Parmi elles, ce père d'élèves, soupçonné d'avoir échangé des messages avec le tueur, ainsi qu'Abdelhakim Sefrioui, leader du collectif Cheikh Yassine qui sera dissous. Aujourd'hui, nous ferons le point sur cette enquête avec Anne Fauquemberg.
Et puis, retour également sur une cérémonie d'hommage qui s'est tenue hier au Mureau dans les Yvelines. C'est dans cette ville que le chef de l'État avait prononcé son discours sur le séparatisme.
Nous irons aux États-Unis où Barack Obama fait son retour sur le terrain de la campagne présidentielle à moins de 15 jours de l'élection et en Tunisie où le Parlement débat sur des lois ultra-sécuritaires. Après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, alors, présidentielle de 95, pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il validé des comptes de campagne irrégulier, je poserai la question au professeur de droit public Romain Rambaud.
7 personnes, dont 2 mineurs, doivent être déférées pour être présentées à un juge antiterroriste. Ce sont les dernières évolutions de l'enquête sur l'attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. 16 personnes étaient gardées à vue hier, 9 ne le sont plus. Parmi les personnes déférées figure le parent d'élève qui avait lancé la mobilisation contre Samuel Paty, un père de famille dont la messagerie a démontré qu'il avait échangé des messages avec le tueur. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
C'est vous qui suivez l'enquête pour France Culture.
Oui, une information judiciaire va effectivement être ouverte ce mercredi et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard devrait préciser cet après-midi les chefs d'accusation. Parmi les 7 personnes déférées donc, le père de famille qui a lancé la mobilisation sur internet contre Samuel Paty et qui a échangé des messages avec le terroriste quelques jours avant le drame, 2 mineurs soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant en échange de renseignements, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, déjà dans le fichier de signalement des personnes repérées pour leur radicalisation à caractère terroriste, cet homme a fondé le collectif Cheikh Yassine, du nom du fondateur du Hamas, tué par l'armée israélienne en 2004. Collectif qui sera dissous en Conseil des ministres aujourd'hui. Il y a quelques jours, dans une vidéo sur le média social YouTube, il dénonçait le professeur assassiné, le qualifiant de voyou. Les 3 dernières personnes déférées sont des amis de l'assaillant tchétchène, soupçonnés de l'avoir convoyé ou de l'avoir accompagné lors de l'achat d'une arme. Enfin, parmi ceux qui ont été relâchés hier soir, figurent 3 autres mineurs, a priori des élèves du collège de Conflans-Sainte-Honorine, des membres de la famille du terroriste et la compagne de l'islamiste Abdelhakim Sefrioui.
Merci Anne Fauquemberg. Voilà pour l'enquête. Du côté des réactions politiques à cet attentat, on a assisté hier à la première prise de parole publique du chef de l'État à ce sujet. Il s'exprimait à Bobigny et il a promis, je cite, d'intensifier l'action du gouvernement contre les partisans de l'islamisme politique, plus que jamais dans le collimateur des autorités. Les citoyens attendent des actes également concernant Emmanuel Macron. Et puis les hommages, toujours. Hier soir, une marche blanche était organisée à Conflans-Sainte-Honorine et ce mercredi est organisé un hommage national à Samuel Paty, plus précisément une cérémonie qui se tiendra à la Sorbonne ce soir. D'autres communes avaient organisé également leur propre moment de recueillement en l'honneur du professeur d'histoire-géographie. C'était le cas hier au Mureau, dans les Yvelines. C'est dans cette ville que le président Emmanuel Macron avait prononcé son discours sur le séparatisme le 2 octobre dernier. Cécilia Arbona a assisté à la cérémonie qu'avait organisée la mairie des Mureaux.
Nous sommes avant tout des hommes et des femmes qui sommes attachés à notre République.
Séparatisme, c'est le titre à la une du journal que cet habitant des Mureaux tient serré très fort contre sa poitrine.
Une une de Charlie Hebdo. Bien sûr qu'il y a encore des choses à faire et que la situation en matière de séparatisme se dégrade. Sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale, j'ai été menacé et insulté, j'ai porté plainte et le hasard a fait que vendredi matin, j'ai reçu classement sans suite. On ne peut pas identifier l'auteur alors qu'il suffit d'avoir l'adresse IP.
Et le même jour, un professeur qui était lui aussi menacé.
Se faisait égorger. Oui, c'est dur.
Oui, c'est difficile, reconnaît François Garret, le maire d'hiver gauche des Mureaux depuis 19 ans.
On n'a jamais gagné. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas nombreux, mais ils veulent déstabiliser notre pays. C'est un combat de tous les jours, un combat qui n'est jamais terminé.
À ses côtés, un bonnet blanc sur la tête, l'imam Brik Zouer de la mosquée Tariq estime qu'aujourd'hui, nous représentons tous des cibles.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un est à l'abri de quelque chose ? nous, et vous. C'est notre communauté musulmane, les chrétiens, qui vivent ensemble depuis des années et des années et des années. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va nous séparer.
De nombreux enfants ont pris part à l'hommage, les cheveux et le visage ruisselants. Ils ont regardé s'éloigner les bougies dans les mains de leurs camarades, les bougies qui représentent les lumières de la République.
Cécilia Arbona, nous reviendrons sur l'enquête et l'hommage de la nation à Samuel Paty dans le journal de 8h. Cet attentat ravive évidemment le souvenir des précédentes attaques terroristes en France, dont celle de janvier 2015, attaques qui sont justement jugées en ce moment à la Cour d'assises spéciale de Paris. Les accusés encore vivants continuent d'être entendus et hier, le plus vieux d'entre eux, Michel Catineau, un Belge accusé d'avoir aidé à fournir des armes à Hamedi Coulibaly, est venu plaider son innocence. Le compte-rendu de Florence Turme.
On le considère comme le bras droit ou l'homme de main de Metin Karasoular, le garagiste kurde de Charleroi, soupçonné d'avoir recherché et fourni des armes à Hamedi Coulibaly. Lui aussi nie les faits qui lui sont reprochés. Je reconnais que j'ai détenu deux vieux fusils, de la CAM, mais faut pas me mettre des trucs de terrorisme sur la tête. Terrorisme, le mot revient comme un repoussoir dans la bouche de l'accusé. Crâne dégarni, cheveux en broussaille sur les tempes et rides marquées sur le front, il a 68 ans, des origines italiennes, un accent belge et une seule passion dans la vie, le jeu. À l'entendre, Michel Catineau passe ses nuits autour des tables de poker dans les casinos et assure sans y regarder de trop près quelques missions qui lui rapportent de quoi alimenter son addiction. Un petit paquet d'héroïne qu'il détient chez lui ou encore ce sac qu'il va chercher à Paris le 3 janvier 2015 pour 500 euros et dont il dit ignorer le contenu. C'est Ali Riza Polat, l'ami d'Hamedi Coulibaly, qui le dépose dans son coffre. « Vous avez transporté des armes ?» interroge la partie civile. « Ça va pas la tête, riposte Michel Catineau. Il s'énerve. C'est vous qui posez des questions à faire bouillir les gens. Son avocate tente de susciter chez lui une réaction de compassion vis-à-vis des victimes, mais il s'obstine, la mine butée. J'étais même pas au courant de ce qui s'est passé. À Bruxelles, il y a eu des attentats aussi. J'ai jamais été concernée. Moi, les faits divers, je connais pas. Et il répète, le terrorisme non plus.
La situation sanitaire en France continue de s'aggraver. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a fortement augmenté hier avec 278 nouvelles admissions en 24 heures et 163 décès. Un nombre qui va continuer à augmenter dans les deux prochaines semaines, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. La situation est particulièrement tendue en Île-de-France qui concentre 661 malades en réanimation. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale s'apprête à siéger exceptionnellement ce week-end pour examiner le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. Le texte sera examiné en Conseil des ministres aujourd'hui. On rappelle que l'état d'urgence sanitaire a été rétabli depuis samedi par décret. Il avait été levé le 10 juillet dernier.
7h08 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Moins de deux semaines avant la présidentielle américaine, l'ancien président Barack Obama participe à un meeting en soutien de son ancien vice-président Joe Biden.
Oui, l'ex-président démocrate était présent sur les réseaux sociaux, mais brillait par son absence sur le terrain. Il sera donc aujourd'hui à Philadelphie, en Pennsylvanie, un état clé dans cette course à la présidentielle. À New York, la correspondance de Benjamin Hilly.
Très discret, Barack Obama, ces dernières années et ces derniers mois en particulier. Officiellement, il terminait ses mémoires qui seront publiées après l'élection. Il avait attendu une victoire nette de Joe Biden au moment de la primaire démocrate pour lui apporter enfin un soutien sans faille. C'était au mois d'avril, mais dans la dernière ligne droite avant le 3 novembre, il vient donc épauler celui qui a été son vice-président pendant 8 ans avec ce passage par Philadelphie et notamment ce meeting en mode drive-in. C'est la campagne au temps de la pandémie, les partisans dans leur voiture, Barack Obama à bonne distance, Philadelphie, la Pennsylvanie, l'un des états les plus disputés, perdus de justesse par Hillary Clinton en 2016. Philadelphie, où Barack Obama avait déjà pris la parole en août pendant la convention démocrate, l'une des rares fois où il s'est exprimé publiquement pour livrer ce réquisitoire contre Donald Trump, le plus sévère depuis 4 ans.
I did hope, for the sake of our country.
J'ai espéré pour le bien de notre pays que Donald Trump prenne son rôle au sérieux, qu'il ressente le poids de la fonction. Mais il ne l'a jamais fait, assène Barack Obama. Ce qui est en jeu maintenant, c'est notre démocratie. Alors aujourd'hui à Philadelphie, Barack Obama va occuper le terrain pendant que l'actuel candidat Joe Biden fait une pause avant le prochain débat contre Donald Trump à Nashville.
Et quelques 30 millions d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne, soit près d'un cinquième de la participation totale selon l'organisation indépendante Elections Project. Les États-Unis enfin, où le ministère de la Justice et 11 États américains ont déposé plainte auprès d'un tribunal fédéral contre Google pour atteinte au droit de la concurrence. Ils réclament des changements structurels au sein du géant d'Internet. Quand la Tunisie post-révolution tente à revenir tout doucement à la Tunisie de Ben Ali, la démocratie est fragile dans le pays et les tentations sécuritaires notamment reviennent en force au Parlement. La société civile alerte sur deux projets de loi débattus actuellement à l'Assemblée tunisienne. Une loi sur l'état d'urgence, une autre destinée à protéger les forces de l'ordre. Si elles passent la rampe, ces lois risquent de provoquer un sérieux retour en arrière. Notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier.
Ben Ali en rêvait, la Tunisie post-révolution risque de le faire. Au nom de la lutte contre le terrorisme, le Parlement doit se prononcer sur des projets de loi liberticides et qui donneraient les coups des franches aux policiers. Près de 10 ans après la révolution, les abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre sont monnaie courante. Ce jeune homme, comme des milliers d'autres, est constamment harcelé par les policiers, soupçonné de terrorisme, totalement blanchi depuis, mais les policiers continuent de le persécuter.
J'étais arrêté pendant 8 jours. Tu ne peux pas dormir, pas de nourriture. Minimum 6-5 policiers te ramènent vers la chambre juste pour la torture. Ils m'ont frappé avec des chocs électriques partout, les insultes, les bâtons. C'est un cauchemar.
Que les policiers puissent bénéficier d'une plus grande protection encore l'ulcère. Hélène Leger, directrice juridique de l'Organisation mondiale contre la torture à Tunis, résume.
Ça passe ou ça casse.
Avec l'ensemble de la société civile et les militants des droits de l'homme, elle se bat corps et âme contre ces projets de loi.
C'est effectivement très alertant. On ne sait pas si on va revenir à un état sécuritaire fort comme c'était le cas dans le passé ou si la Tunisie va être en capacité de poursuivre son cheminement vers la constitution d'une vraie démocratie.
Le comble, ce qui risquent de faire passer ces lois aujourd'hui sont ceux qui, à l'époque de Ben Ali, souffraient des abus policiers, les islamistes.
Maureen Mercier, le temps de ce mercredi, il fera plus doux, malgré un vent persistant. Pluie ce matin sur le littoral nord-est jusqu'à la frontière belge. Du sud-ouest au nord-est, temps globalement ensoleillé. Les températures, elles remontent. 11 à 15 degrés en général sur la moitié nord, 14 à 17 au sud ce matin. Et cet après-midi, comptez de 16 à 20 degrés près de la Manche, entre 19 et 24 ailleurs.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin.